Bonjour à tous hein, et à toutes. Donc, on n'est pas nombreux aujourd'hui. J'ai été conduit pour faire ce message parce que la semaine dernière, je n'avais pas d'idée. Mais j'ai été conduit, je pense, par l'Esprit Saint. Et lorsque je travaillais encore, donc fin juillet, le dernier jour de mon travail, lorsque je faisais un petit dépannage, j'avais devant moi un gros camion tout noir. Pas si gros que ça, un camion de déménagement, mais il venait d'Angleterre. C'était l'Euro, le foot, et certainement que c'était des gens qui venaient voir le foot avec leur camion. Et sur la porte arrière du camion, il y avait une inscription qui était en anglais. Alors, je vais pas vous dire l'anglais parce que je sais pas le faire, mais j'ai pris note de ce qui était écrit. Hein. Il était marqué Jésus-Christ. Et puis après des phrases, je suis allé sur Internet, Google traduction, et puis j'ai traduit. Jésus-Christ est la réponse à tous nos problèmes aujourd'hui. Vous y croyez? Oui, moi aussi j'y crois, absolument. Alors voilà, ça c'est un début comme ça. Et puis cette semaine, lundi, vers 11h30, deux personnes, on sonne à la porte, deux personnes bien costumées. Oh, exactement. Alors je dis, écoutez, vous êtes les témoins de Jéhovah. Et ben oui. Et alors, je leur dis, soyez bénis. Soyez bénis. Dans mon cœur, c'était comme ça. Je me suis dit, oh, je vais encore passer un moment barbant. Mais je vais les bénir. Soyez bénis. Alors voilà, ils étaient contents d'être bénis. Et puis, est-ce que vous êtes croyant? Ben, je dis oui, je suis croyant. Je suis protestant. Et voilà, j'ai la parole du Seigneur avec moi. Est-ce que vous savez comment on appelle Dieu? C'était leur question. Oh, ben, je dis écoutez, ça dépend. Il y a tellement de façons d'appeler Dieu. Je dis ça dépend. Alors moi je dis ça peut être Adonai, ça peut être Elohim, ça peut être Yahvé, Huawei, je sais pas comment on dit exactement. Hein. Mais alors ils me disent mais non c'est oui bien sûr mais c'est pour nous c'est Jéhovah. Ah ben je dis oui Jéhovah parce que vous mettez des massorettes sur le nom de Dieu. Alors il y en a un qui me regarde mais c'est quoi ça? Et puis l'autre, il était un peu plus au courant, il dit, oui, massorette, oui, c'est vrai. Donc, effectivement, je dis, on a le même Dieu. C'est le Dieu d'Abraham que vous avez. Dieu de Jacob. Oui, c'était le même. Bon, très bien. Donc, on discute, un peu le pourpoint. J'étais un petit peu perturbé quand même, parce qu'ils connaissent très bien leur Bible. Et clac, clac, tac au tac, moi, j'étais un petit peu ballotté de droite et de gauche, et ça leur faisait bien plaisir. Et ils m'ont dit voilà, ils m'ont tendu une de leur fameuse brochure, hein, voilà. Vous le lirez, hein, monsieur, vous allez le lire. J'ai dit oui, je vais le lire. Et on revient dans 10 jours. Donc je les ai pas encore vus. Donc le mardi j'ai laissé ça de côté, et le mercredi j'ai dit oh bah tiens, quand même, je vais le lire. Donc j'ai lu, et puis j'ai trouvé des choses incroyables dans cette histoire. Oui, des choses extraordinaires. Alors, bien souvent, ils mettent des phrases avec un verset. Donc ça, tout ça, j'ai vérifié. Oui, ça correspond dans l'esprit, c'est tout à fait vrai. Mais à un moment donné, j'arrive, Jéhovah, Dieu, a créé un ange très puissant. Il sera plus tard appelé Jésus-Christ. Ensuite, il a créé d'autres anges. Où est-ce que vous avez vu ça dans la Bible? Alors ça, je vais leur poser la question. Où est-ce que vous avez vu que Jésus a créé un ange très puissant? Non, c'est pas possible. Pas pour moi, non. Jésus, fils de Dieu. Bon, je vais pas tout faire le catalogue, c'est pas possible. Hein, mais il y a des choses qui sont quand même intrigantes. Et puis, je passe. Sur la fin, il y avait quelque chose qui m'avait interpellé quand même. Leur façon d'agir. et de mettre le doute. Comment être témoin de Jéhovah ? Ne suivez aucune coutume contraire à la Bible. Pour cela, il faut du courage. Alors, je vous montre l'image. On voit un prêtre, une église derrière, des fidèles qui sortent de l'église. Et puis là, on voit le témoin de Jéhovah qui met sa main pour, comme pour se parer, se protéger du mal. Alors, et puis en dessous, c'est la même chose. Ne faites pas de politique. Voilà, ne faites pas de politique parce que c'est pas la part, ça, voilà, ça vous éloigne de Dieu. Quelque part, moi j'ai dit à Sabine, la politique, tous pourris. C'est un petit peu le slogan qu'on a depuis des années. Et l'Église, tous pourris aussi. Ben oui, il y a des prêtres, il y a des hommes qui, voilà, en toute impunité, font des choses mal. En toute impunité, non, ils sont punis. Mais ils ne sont pas exemples. Et ils mettent tout ça dans le même sac, hop, tout est rejeté. Et ici, il est marqué, allez vers les témoins de Jéhovah, ils vous aideront à vous approcher de Dieu. Voilà. Je n'ai pas vu là-dedans, à aucun moment, le salut de Christ. Et ça m'interpelle. Je me dis, mais où est la bonne nouvelle ? Où est la bonne nouvelle ? Je leur poserai la question. Je vais les laisser faire, s'ils viennent, parce que peut-être qu'ils vont dire, oh là là, celui-là, il a quand même parlé de... Il y a quand même des petites choses qu'il connaît. Donc, je ne sais pas. Mais s'ils viennent, je vais les laisser dire et puis les mettre un petit peu. Mais où est-ce que vous avez appris ça ? Hein ? Ils m'ont affirmé qu'il y avait énormément de Bible. Il y avait énormément de Bible sur la terre. Eux, ils ont une Bible, traduite de je ne sais où, par un prêtre ou un curé, je ne sais plus, j'ai oublié leur histoire. Mais ils ont une Bible. À la maison, je dis à Sabine, on a combien de Bibles ? On a compté 6 Bibles. 6 Bibles, pourquoi ? Parce qu'on a besoin, quand on a une écriture, de dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ? On va voir la deuxième Bible, on a une petite coloration différente qui nous permet de comprendre la parole de Dieu. C'est important. Voilà. Alors, le message que je vais délivrer aujourd'hui, il a été tiré d'un livre qui est de Claude Hood, et tiré aussi d'un message. Donc, j'ai ponctionné. C'est impossible pour... Claude Hood, c'est un homme extraordinaire. Hein. Il a un charisme, une façon de parler qui vous emporte. Hein. C'est vraiment formidable. Donc, je ne vais pas faire du Claude Hood. Je disais ce matin à Sabine, je vais faire du Claude Hood. Mais non, ce n'est pas possible. On ne peut pas être à sa cheville. Ce n'est pas possible. C'est comme du Robert. Hein. C'est dans une autre catégorie. Voilà. Apprendre à sauter pour ressembler à Robert et taper du pied. Alors, on va prendre Genèse 14, du verset 17. Alors, moi, je l'ai pris du verset 18 à 24, dans la Genèse. Donc, on va parler d'Abraham, quand il a reçu l'Esprit Saint, il s'est appelé Abraham. Donc, on va parler de cette période où il s'appelle encore Abraham. Et donc, il a reçu l'ordre de Dieu de quitter son père, sa mère, enfin son pays. Et voilà, il est en route. Donc, c'est suite à une guerre. Une guerre entre le roi de Salem et aussi le roi de Sodome, avec d'autres rois qui se sont imposés dans leur territoire. Et donc, malheureusement, Sodome et Salem n'ont pas gagné cette guerre. Mais Abraham se met en route parce que Lot a été fait prisonnier. Et Abraham va gagner la guerre contre ces gens qui ont pris Lot. Donc il récupère tous les biens de Lot, toutes les richesses bien sûr qu'il va ramasser, il les a pour lui. Donc Genèse 14, 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Très-Haut. Il bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni. Pardon, Abraham, c'est Abraham. Qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Puissant, le Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre les mains. entre tes mains, pardon. Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je le jure, la main levée vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, le Maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient, pas même un fil ni un cordon de sandales, afin que tu ne puisses pas dire, c'est moi qui t'ai enrichi. Moi qui ai enrichi Abraham. Il n'y aura rien pour moi, sauf pour ceux qui ont mangé les jeunes, pour ceux qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui m'ont accompagné, Aner et Shaul et Amré. Eux, ils prendront leur part. Ça se passe dans une vallée. Je ne sais pas si le verset 17, on vous indique que ça se situe dans la vallée. Voilà. Oui. Et dans la vallée de Chavé, hein, c'est ça, hein, Chavé. Et donc Abraham, fait face à deux rois. Et je vais commencer par le roi de Sodome. Et Sodome lui propose un marché, entre guillemets. Il lui dit, prends les biens, prends toutes tes richesses, prends-les. Mais par contre, je veux les âmes. Il veut les hommes, les femmes, il veut tout. Il veut les âmes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire, donne-toi entièrement à l'aspect temporel. Tu en parlais tout à l'heure, Jean-Luc, de l'aspect matériel des choses, etc. C'est exactement ça, aspect matériel. Pense au développement de ta carrière. Tu vas travailler tout le temps, juste sans penser à rien d'autre. Ne te consacre qu'aux aspects et aux dimensions de la vie qui sont éphémères. Et le résultat de tout ça, je te volerai ton âme. On peut dire qu'Abraham, quelque part, il est dans une vallée de décision. On lui demande de faire des choses, et il est dans une vallée, physiquement, il est dans la vallée, mais on peut dire aussi qu'il est dans une vallée de décision. Il va faire un acte. Quelque part, nous aussi, on a dans nos vies des vallées de décision. Chacun d'entre nous, on a, je dirais même chaque jour, on a des opportunités pour prendre des décisions. Et souvent, ce sont des décisions de refus. Savoir dire non, c'est pas toujours facile. Alors on dit, on a des refus parce que, de par notre éducation, non jamais on touchera à ça. On a des refus aussi par la connaissance de ce qui est mauvais ou bon. Hein, on peut faire ça aussi. Mais il y a aussi des refus de foi. Car nous croyons à la parole de Dieu et que nous suivons ses commandements. C'est ce que va faire Abraham. Je vais dire des fois Avram, parce que c'est de l'hébreu. Et donc, des fois ça dérape, je dis Avram. Mais c'est pareil, c'est la même chose. Donc, dans la vallée de décision, dans notre vallée de décision, il y a deux chemins, deux possibilités réelles. Elles sont véritables et éternelles dans leurs conséquences. Ça, c'est important de le savoir. Ce que l'on va décider aura des conséquences. Et elles sont irrévocables. Jésus nous avertit, nous met en garde. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme, s'il se détruit et se ruine soi-même? Alors dans la vallée, il y a aussi le roi de Salem. Il se présente en même temps. Le roi de Salem, c'est le roi de la cité de Dieu, Jérusalem. Jérusalem, pour les Hébreux, à cette époque, l'époque de l'Ancien Testament, ça représente tout ce qui est Dieu, éternel, ce qui est pur, ce qui est bon, sans tache, tout ce qui est rattaché au Dieu Tout-Puissant, le roi majestueux. Pour le roi de Jérusalem, qui était à l'époque Salem, pour le roi de Jérusalem, c'est le sacrificateur du Dieu Très-Haut, C'est donc un statut. J'ai relevé aussi quelque chose qui est intéressant dans le livre, c'était pour les théologiens aujourd'hui. C'est une apparition prophétique et annonciatrice du Christ, du Fils de Dieu, dans l'Ancien Testament. On annonce que Jésus-Christ va prendre cette place de sacrificateur du Dieu Très-Haut pour Jérusalem. On va reprendre la lecture, mais là je vais détailler la lecture de Genèse 14, 18 à 23. Donc Melchisédek, roi de Salem, fit apporter le pain et le vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Là, le roi de Salem agit en capacité de sacrificateur du Dieu Très-Haut, offrant le partage du pain et du vin avec Abraham. Là aussi, on peut voir quelque chose qui est annoncé, le pain et le vin avec Jésus. Verset 19. Il bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre. Verset 20. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Qu'est-ce que ça veut dire? En donnant une portion de tous ses biens, du travail de ses mains, de ses conquêtes, de ses guerres, le fruit de ses victoires. Abraham disait, entre guillemets, hein, je suis devant Dieu, non pas devant Salem, mais devant le sacrificateur divin, devant le sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il lui rend tout simplement à Dieu, à travers Salem, il lui rend simplement une infime partie de tout ce qu'il lui a donné, ce que Dieu a donné. Verset 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends les richesses pour toi. Abraham répondit au roi de Sodome, je le jure la main levée vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre. Lorsque Abraham lève les mains comme ça, c'est un geste d'abandon, de foi, de confiance et de vulnérabilité. Il est encore une fois devant non pas un homme, mais devant le Dieu Très-Haut. Verset 23. Je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient, pas même un fil ni un cordon de sandales, afin que tu ne puisses pas dire, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Ici, Abraham a fait un choix dans sa vallée. Il a fait un refus de la proposition de Sodome. Et ce refus, avec la foi, revient à Dieu avec sincérité. Alors je vais expliquer ce que ça veut dire. Ce refus qui est fait avec sincérité, qui revient à Dieu avec sincérité, on va étudier ce mot sincérité, et donc c'est tiré du latin, et qui signifie dans sa forme la plus pure, on va dire, hein, la première origine. Ça veut dire sans cire. Sans cire. Alors, il faut donner une explication. Parce que dans l'Antiquité, les commerçants qui faisaient des statues, qui vendaient des statues ou des sculptures, ils les vendaient, et parfois, il y en avait une qui cassait, alors ça pouvait être un propriétaire dont la statue se cassait, il fallait la réparer. On mettait de la cire pour coller les morceaux. On faisait un bel habillage et on avait une magnifique statue, mais elle était cassée. Et donc il y avait des fraudes. C'était frauduleux. Parfois, on vendait des statues qui n'avaient pas aucune valeur, elles étaient cassées. Et donc, quand on s'est aperçu de ce problème, on a fait comme on fait aujourd'hui, on fait des marques, et il y avait l'estampille sans cire, c'est-à-dire que sans défaut. Et il y avait une garantie. Et donc cette garantie, attention, celui qui faisait, qui mettait sa garantie sans cire et qui avait été cassé, c'était la mort pour lui. C'était quelque chose de punissable, de vraiment très fort. Et ben voilà, sans cire, sincère. Et quand on arrive près de Dieu, et quand on fait un acte de foi qui revient à Dieu, et que cet acte de foi est sincère, c'est-à-dire sans cire, sans défaut, sans cassure, sans quelque chose de caché, eh bien, ça vous revient à vous. Dieu reconnaît ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait est sans défaut, sincère. On va les prendre dans Hébreux 10, de 19 à 25. Hébreux 10, versets 19 à 25. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, on parle de Jésus, hein. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous d'un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, des cœurs purifiés, d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors là, c'est vraiment d'actualité. Cette parole, elle est dite aujourd'hui, elle est d'actualité. Voilà. Ainsi donc, mes frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, oui, c'est vrai, par une route nouvelle et vivante, et il a inauguré pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Effectivement, Jésus nous donne accès directement à Dieu. Si on croit en lui, on a directement accès à Dieu, au Père. Il est un souverain sacrificateur. Dans l'Ancien Testament, avec Abraham, Abraham est devant sa vallée avec Salem, qui est sacrificateur. Aujourd'hui, Jésus, c'est notre sacrificateur devant l'Éternel. Et approchons-nous, nous, de lui, d'un cœur sincère. Voilà. Sans tache, sans brisure. Alors, ça ne veut pas dire... Quand je dis ça, ça ne veut pas dire sans tache, sans brisure, etc. Si nous avons des brisures, ne les cachez pas. Ne mettez pas de cire, ne les recollez pas. Venez à lui tel que vous êtes, avec vos défauts, avec vos brisures. Voilà. Ça veut dire ça. Sans cire, sincère. Soyez sincère. Abraham, qui après avoir reçu l'Esprit Saint, devient Abraham, et il est le père de la foi. Et en ce sens, il nous trace un chemin. Donc je dirais qu'aujourd'hui, celui qui cherche la foi, il peut vraiment prendre le bâton d'Abraham et de suivre les pas d'Abraham pour la foi. Alors je passe maintenant au deuxième aspect de ce que je voulais dire. Là, c'était la partie écrite. Là, c'est la partie que j'ai pu voir sur Internet, message de Claude Hood. Et il s'agit de sectes, d'intégrisme et de religion. Alors, je vais donner quelques définitions concernant les sectes, l'intégrisme et la religion. Alors, le mot secte, je ne vais pas tout dire, mais désigne de nos jours un groupe ou une organisation souvent à connotation religieuse, dont les croyances ou le comportement sont jugés obscurs ou malveillants par le reste de la société. Les responsables de ces groupes sont souvent suspectés, d'une part, de brimer ces libertés individuelles au sein du groupe ou de manipuler mentalement leurs disciples, s'appropriant parfois leurs biens, et les maintenant sous contrôle, entre autres par la fatigue, et d'autre part, de menaces d'ordre social. Il y a peut-être beaucoup d'autres définitions pour les sectes, mais j'ai retenu celle-là. Après, il y a l'intégrisme, attitude et disposition d'esprit de certains croyants qui, au nom du respect intransigeant de la tradition se refuse à toute évolution. Et pour les religions, ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. Ensemble de pratiques et de rites spécifiques propres à chacune de ces croyances. Ou adhésion à une doctrine religieuse, foi, n'avoir plus de religion, entre guillemets, voilà. Hein. Ce que dit Claude Hood, c'est qu'il est impossible de vivre sa foi sans dire non aux sectes, à l'intégrisme et à la religion. C'est surprenant, parce qu'on est dedans aussi, la religion, mais oui. Je me suis interrogé par rapport à ça. Effectivement, les religions, parfois, par leur façon de faire, nous empêchent de vivre la foi réelle de ce que Dieu veut nous donner, de ce que Jésus veut nous donner. Et je vais passer à travers un texte de Jean 2, versets 1 à 11. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit : « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur : « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées à la purification des Juifs et contenant chacune 100 litres. Jésus leur dit : « Remplissez ces jarres d'eau. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit : « Apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien. Il appela le marié et lui dit : tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, quand on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors dans ce texte, il y a quelque chose d'un peu extraordinaire, c'est que Jésus va nous annoncer que les religions, c'est pas ça. Il prend des jarres qui sont destinées à la purification des Juifs. Donc quelque chose de sacré. Donc c'est très symbolique. Il va les remplir d'eau et il met du vin nouveau. Donc nouvelle parole. Il va annoncer au monde entier à travers ce miracle que je vais changer les choses. La religion est une chose, mais moi je ne vous apporte pas la religion, je vous apporte la bonne parole. Je vous apporte la relation avec Dieu vivant sur terre, Dieu vivant au ciel. Je vous apporte ça. Ne vous fiez pas aux enseignements et aux, comment pourrais-je dire, à tout ce qui va vous ligoter à travers une religion. Non. Soyez en relation avec Dieu. Jésus donne la liberté. Les personnes sont libres de, qui va les libérer de dépendance qui les détruisait, de la honte, de la culpabilité, libérés du joug religieux et légaliste, des jugements, des critiques, libérés de la prison et des limites dans lesquelles même les chrétiens, des religieux, les ont mis à cause de leurs erreurs du passé. Libre du poids du passé, libre de la souffrance intérieure, de l'angoisse, de la dépression, de la peur de mourir ou de vivre. Voilà, la foi en Christ, en Jésus-Christ, il nous permet d'aimer, de s'aimer. Nous sommes libres de pardonner et de se pardonner. d'être libre soi-même, de choisir de grandir, de s'épanouir, de faire confiance. Voilà ce que nous donne Jésus. Alors ça bouleverse un peu tout. Jésus, il donne le coup de pied là. Hein. Donc, c'est une réflexion. Voilà. Est-ce que nous sommes en relation avec Dieu directement? Ou est-ce que nous sommes plutôt dans « je vais m'agenouiller, je vais faire 6 prières ou 7, je ne sais pas, et puis je vais être dans le soi-disant sacré, mais ça sera du rituel. » Vous ne serez pas en relation avec Dieu, vous avez perdu la cible. La cible, c'est Dieu directement, et vous passez par Jésus-Christ pour accéder à Dieu. Voilà. Soyez bénis. Voilà, que chacun d'entre vous reçoit sa bénédiction. Voilà, Seigneur, toi qui as créé la terre et le monde, toi qui as créé tout l'univers, toi qui nous as créés, Seigneur, tu sais combien nous sommes démunis par rapport à tout ça. Et Seigneur, nous souhaitons cette relation personnelle avec toi, Seigneur. Oui. Alors viens guérir nos cœurs, que nous soyons sincères, que si nous avons des brisures en nous, que nous ne soyons pas tentés de les cacher, mais plutôt de te les montrer pour que toi, Seigneur, tu puisses les réparer. Voilà, Seigneur Jésus, je te remercie et bénis cette assemblée. Amen. Alors, si vous voulez, j'ai un rêve à raconter que j'ai eu cette nuit. Si vous voulez. Hein. Ça vous intéresse? Alors voilà. Je suis. Non. Je suis dans le train. Je suis dans un train. Et je vais faire un concours, enfin pas un concours, une compétition de vélo. Et je suis avec mes amis, voilà. Et je cherche mon vélo, je ne le trouve pas. Et je vois une prof d'anglais qui passe et qui va voir mon entraîneur et qui dit Rémi est disqualifié. Parce que la semaine dernière, il s'est pas présenté à un concours où il devait, voilà. Et en moi-même, je dis encore une fois, j'ai oublié, encore une fois. Et puis là, ça avait une conséquence, c'est que voilà, je ne pouvais pas concourir avec mes amis pour. Et puis je me suis réveillé. Il était 5h du matin. Et puis j'ai réfléchi à tout ça, et je me suis souvenu d'un souvenir, et ça c'est réel. J'étais témoin pour un mariage et je devais être le photographe. J'ai pas su me lever. Et donc coup de téléphone du marié qui me dit Rémi, t'es où? Je suis chez moi. Oui, mais c'est le mariage. Ah là là, alors l'appareil photo, l'adresse, j'avais perdu l'adresse, je suis arrivé en retard, du coup, je suis arrivé à temps pour le mariage. Ouf, le témoin était là, mais le photographe était absent. Et donc le photographe, c'est un frère à la mariée qui s'en est occupé et qui a très bien fait les choses. Mais voilà, ça a des conséquences. Et j'étais troublé par ça, quoi. J'avais été malheureux parce que voilà. Et à ce moment-là, j'ai je sais pas si on peut dire une petite voix, mais une petite lumière qui dit mais Rémi, tu étais où dans ton rêve? Tu étais dans le train. Tu as quelque chose, tu dois conquérir, enfin, tu dois, il y a une compétition, oui, quelque part, il y a une compétition réelle. Qui est la vie éternelle. Et cette compétition, Rémi, tu la feras avec, pas tout seul, pas contre les autres, mais avec les autres. Nous sommes dans le train, Je ne sais pas quelle place je vais avoir, mais j'ai une compétition à faire. Et la victoire, voilà, c'est la vie éternelle. C'est pour vous aussi que je dis ça, parce que on a tous un train, on a tous quelque part eu des échecs, des choses comme ça, et ce train, il est là pour nous, pour aller de l'avant. Voilà. C'est pas fini. Ça, je dis ça pour vous tous. J'ai prié après parce que j'avais un sentiment de mais pourquoi j'arrive pas à dormir. Et peut-être qu'il faut prier. J'ai prié pour qui? Pour Tony Sperandeo, et sa femme, ses enfants, son assemblée à Mayad, et j'ai prié aussi pour Israël. Je me suis endormi à 6 heures. Voilà, soyez bénis, au revoir.